Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous saluons nos frères et sœurs qui nous visitent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'aimerais faire plusieurs lectures, mais la première dans 1 Corinthiens 1. On va parler de la croix. 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous allons au chapitre 2, au verset 1er. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Voilà, comme nous le savons, Jésus est le personnage central de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Jésus a été annoncé dans le Nouveau, dans l'Ancien, prophétisé, et dans le Nouveau, il s'est manifesté. Mais l'œuvre de la croix est la partie la plus importante de l'Évangile, l'œuvre de la croix. Et l'apôtre Paul, c'est cette œuvre centrale de l'Évangile, c'est là que tout a été accompli, c'est là que tout s'est passé. On ne doit pas chercher ailleurs, mais c'est à la croix que Dieu a tout accompli au travers de son Fils, Jésus et le Saint-Esprit, nous rend vivante cette œuvre manifestée à la croix. Que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs ce matin. Nous voyons aussi que l'apôtre Paul, dans le ministère de l'apôtre Paul, dans la prédication, le thème majeur de sa prédication, c'était la croix. Et nous savons que l'apôtre Paul a prêché la croix et il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Dans les Actes des apôtres, nous voyons qu'il y a eu des délivrances, des miracles, des guérisons. Enfin, c'est manifesté parce qu'il a prêché la croix. Et je crois que nous sommes appelés aussi à prêcher la croix. Parce que la prédication n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé, elle a toujours la même efficacité, la même puissance, la même autorité. Et nous ne devons pas changer, comme nous l'avons lu ce matin en début, l'apôtre Paul dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu, la parole de vérité. Nous ne l'altérons pas, nous ne la modifions pas, nous ne la changeons pas, mais nous voulons garder cette parole dans notre cœur. Elle a traversé les siècles et elle a été efficace. Dans tous les siècles, cette parole a été efficace. Elle a produit le salut, la délivrance, elle a produit la guérison au travers de tous ces siècles. Et béni soit le Seigneur de ce que nous avons, la Bible avec nous, et de ce que cette parole, et nous n'avons besoin de rien d'autre que la parole de Dieu, elle est suffisante. Il envoya sa parole, et sa parole l'est guérie. Alors, thème central de la prédication de l'apôtre Paul, il dit « Je veux rien savoir d'autre, ni la sagesse du langage, rien d'autre que la prédication de la croix ». Alors on va un petit peu méditer sur la croix, on peut méditer 10 fois, 20 fois, 100 fois, on trouvera toujours des choses à dire sur la croix de Jésus. Puissions-nous que cette croix puisse encore nous toucher ce matin. Donc nous allons prendre dans l'évangile de Luc, nous y venons ensemble, dans l'évangile de Luc, chapitre 23. On va voir quelques manifestations à la croix, quelques implications, quelques façon de voir la croix, Luc chapitre 23, et nous lisons à partir du verset 32. Luc 23, 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant en lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ils le crucifièrent là, donc sur le mont Golgotha, sur le mont Golgotha. Le lieu est important, parce qu'il y a des prophéties de l'Ancien Testament qui se rapportent à cela. Donc le lieu était un lieu prophétique, ce mont Golgotha. Dans Ésaïe 53, eh bien, nous avons la description des souffrances de Jésus. Il a pris dans ses meurtrissures nos maladies, nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a prophétisé sur ce lieu, sur la croix, sur le mont Golgotha. Il a prophétisé. Dans le psaume 22 aussi, c'est un psaume prophétique, messianique. Le psaume 22, nous avons des détails remarquables. Dans ce psaume, il est question de cette phrase que Jésus a citée, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David a prophétisé donc sur cela, sur Jésus. Mais la croix également, tous les sacrifices du Lévitique nous amènent au sacrifice parfait. Tous ces sacrifices étaient imparfaits dans le livre du Lévitique. Mais le sacrifice parfait, c'est Jésus. Et tout cela nous amène donc au mont Golgotha. Vous savez, la croix, ce n'est pas un accident. La croix, ce n'est pas la volonté des hommes. La croix, ce n'est pas une injustice. Mais la croix, c'est le plan de Dieu. Dieu a prévu. Ce n'est pas un accident de parcours, mais la croix a été prévue par Dieu de toute éternité. Et donc Jésus est arrivé là. Depuis Genèse 3,15, qui a été la première prophétie concernant la croix, où il est dit que l'ennemi blesserait le talon de la femme, mais elle lui écraserait la tête. Donc c'est la première prophétie, Genèse 3,15, concernant la croix, concernant Jésus. Ah, c'était prévu, la croix était prévue. La croix, c'est également un lieu de douleur. Dans Ésaïe 52, verset 14, il est dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tout son aspect différé de celui des fils de l'homme. C'est un endroit de douleur. Et il faut que ce soit ravivé dans nos cœurs, constamment par la parole et par le Saint-Esprit, qu'on n'oublie jamais. Quand on est placé devant la croix, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent honnêtement, sincèrement. Quand on est placé devant la croix, on ne peut pas s'enorgueillir. La croix nous humilie. La croix nous amène nous-mêmes à reconnaître que nous étions des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. D'ailleurs, de la croix, la grâce coule. Douleur de la séparation, d'abord, comme je le disais tout à l'heure dans Matthieu 27, verset 46, Jésus va prononcer cette phrase, on le lit rapidement, mais c'est quelque chose de tellement profond. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus n'a jamais appelé son Père « mon Dieu », c'est le seul endroit. il l'a toujours appelé mon père. Et dans cet endroit-là, Jésus a été séparé de son père pendant un temps. Il a été séparé, mais ça, c'est une douleur excessive. Jésus séparé de son père, il n'a jamais été séparé de son père. C'est le seul endroit où pendant un instant, Jésus va être séparé. Il a été chargé de nos péchés. Et vous savez que Dieu ne peut pas voir le péché, le mal, les ténèbres. Dieu ne peut pas le voir. Et Jésus était chargé de nos péchés. Vous savez, à la fin de ce message, on ne peut pas s'enorgueillir. On ne peut pas, moi, je. Non. Tout nous vient de lui. Et tout nous vient de la grâce de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Coupé de la communion avec son Père. Vous savez que la communion avec Dieu, c'est ce que nous avons de plus précieux. De plus précieux. Nous pouvons avoir des avantages, des bénédictions, nous pouvons avoir des choses ici-bas sur la terre, mais la communion avec Dieu, il n'y a rien de plus précieux. Pouvoir s'entretenir avec Dieu, Dieu qui nous parle, Dieu qui purifie notre cœur, Dieu qui peut agir dans notre vie, mais il n'y a rien de plus précieux que cela. La croix, donc ce lieu de séparation, c'est également, comme je l'ai dit, Jésus s'est chargé de nos péchés, la douleur de nos péchés sur lui. On a du mal à imaginer, on ne pourra jamais imaginer ce que Jésus a dû subir quand il s'est chargé des péchés de l'humanité. Lui, le saint, le pur, lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'avait jamais rien fait de mal, il se charge des péchés de l'humanité, de tous les adultères, la méchanceté, la colère, la haine, l'hypocrisie. Jésus se charge de tout cela. Les blasphèmes contre Dieu, il se charge de tout cela sur lui. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 21, que Jésus a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. Combien ce mont Golgotha, nous voulons ne jamais l'oublier. Il a payé notre dette. La croix, c'est un lieu prophétique, tout a été annoncé, ce n'est pas un accident. La croix, c'est un lieu de douleur, de séparation, où Jésus a subi ces choses-là. Mais la croix, c'est aussi, démontre l'horreur du péché de l'homme. Comme le disait le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Peut-être on se dit, moi je ne suis pas si mauvais que cela. Cœur naturel, il est mauvais. Notre cœur naturel est mauvais, mauvais. Et la croix, c'est un petit peu une photographie du cœur humain, ce qu'il est capable de faire, le cœur humain. L'horreur du péché sur la croix, aujourd'hui il y a comme une insensibilité. Il y a comme une indifférence au péché. Ce qui avant était considéré comme un péché, je parle dans le milieu chrétien, aujourd'hui c'est pas si grave. C'est pas si grave. Avec le temps, avec l'éloignement, avec l'affaiblissement, avec l'apostasie qui prend place, eh bien, il y a eu comme une insensibilité dans le cœur du croyant, comme une indifférence vis-à-vis du péché. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Quand on se place sincèrement, comme je l'ai dit, devant la croix, on ne peut rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Si dans la prière, nous nous approchons de Dieu et nous nous plaçons devant la croix, mais qui peut rester insensible ? Je parle des croyants, bien sûr. On ne peut pas. Le Saint-Esprit nous amène à plier le genou, à nous humilier et à le louer et l'adorer. D'ailleurs, nous avons vu, il y a plusieurs réactions face à la croix, nous l'avons lu dans ce texte, il y a plusieurs réactions. Le peuple, il nous est dit, il se tenait là et il regardait, et en plus il se tenait loin, il regardait Jésus qui était en train d'agoniser. Le peuple regardait comme un spectacle, il regardait. Il ne nous est pas dit d'autres réactions, ce peuple était là. La croix, la vie chrétienne n'est pas un spectacle. Il est toujours question de vie et de mort. Pour le pécheur qui arrive, il est question de son éternité. pour le croyant, pour chacun d'entre nous, la vie chrétienne, le reste, ce n'est pas un spectacle. On ne se tient pas loin en regardant. Mais la croix nous concerne tous. La croix, il y a besoin qu'elle soit plantée dans notre cœur. On ne regarde pas de loin l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre extraordinaire. Donc il se tenait là, le peuple, et il regardait. Comme je le dis souvent, l'évangile n'est pas une distraction, un amusement, un moment de détente. Il est question de notre éternité. On peut se détendre, hein, mais l'évangile n'est pas une détente. On peut se distraire, mais l'évangile n'est pas une distraction. L'évangile, c'est le message de Dieu. L'évangile, c'est le cœur de Dieu qui est révélé. La croix, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté. Et quand il est question du salut d'une âme, quand il est question d'éternité, on ne peut pas le prendre à la légère. Dans toutes nos réunions de prière, la prédication, toutes ces choses, ce n'est pas un moment de distraction, de spectacle, jamais de la vie. Quand Paul prêchait, il avait en lui le souci du salut des âmes. Et il le dira aux Galates qui étaient revenus petit à petit à une sorte de religion. Ils étaient revenus un petit peu à la religion. Ils avaient fait les deux. Ils avaient dit, bon, on peut pratiquer un peu religion, un petit peu la foi. Et Paul a ressenti en lui-même des douleurs indescriptibles. Il le dira aux Galates, je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé à nouveau en vous. Voyez, ça lui a causé une souffrance extraordinaire de voir le peuple, de voir cette église de Galatie. Il était dans un état, les épouses qui ont eu des enfants, vous savez ce que ça peut provoquer, les douleurs de l'enfantement. Paul souffrait à l'intérieur. Mais comme Jésus, quand Jésus voyait une foule, il était ému de compassion, mais le terme est beaucoup plus fort, il est saisi au plus profond de son être. Quand il voyait une foule, il les regardait pas comme des numéros, pas comme des gens, Non, il les regardait comme des brebis qui n'avaient point de berger. Que nous ayons un peu ces sentiments de Christ dans notre cœur et que l'on ne s'habitue pas. Question d'éternité, où allons-nous passer notre éternité? C'est notre réponse toujours face à la croix qui va le déterminer, toujours. Dieu nous dira, qu'as-tu fait du sacrifice de Jésus? C'est là, il n'y a pas autre chose. Mais Seigneur, j'ai fait beaucoup d'œuvres pour toi, j'ai fait des activités, j'ai fait... Non, est-ce que l'œuvre de la croix a été plantée dans ton cœur? Et après, tout le reste, bien sûr, découle. Il regardait. Vous savez, l'une des meilleures preuves que le cœur de l'homme est dans une dépravation de plus en plus, je parle de l'humanité, dans une dépravation de plus en plus grande, c'est par rapport à la violence, par rapport à la mort, par rapport à toutes ces choses, la haine. Nous voyons que le monde aime ça. Regardez les émissions, regardez les titres des émissions ou des films, et vous allez voir ce que le monde veut, ce qu'il veut, ce qu'il réclame, ce à quoi il aspire, du sang, des meurtres, de la violence, de la haine. Vous le voyez. Je ne sais pas si on a les mêmes chaînes, non? Oui, vous le voyez. Ça, c'est ce que le cœur de l'homme réclame. Et ça, c'est la dépravation de plus en plus du cœur de l'homme. Il regardait cette société moderne, et nous voyons que ça a été de tout temps. Il regarde Jésus agoniser comme un spectacle. Ils ne sont pas impliqués dedans. Ils regardent de loin. Il regarde ça, Jésus est en train d'agoniser, Jésus est en train de payer pour leurs péchés. Et eux, ils regardent, là, sans réaction, sans rien. Je ne sais pas si on peut regarder un homme souffrir comme ça. Mais cet homme qui souffrait, il n'a jamais fait de mal. Il a fait que du bien. Dans cette foule, ce peuple qui se tenait là, certains ont dû être guéris par Jésus. Certains ont dû être bénis par le Seigneur. Et ils sont là, ils regardent. Ça ne les concerne pas beaucoup, ils sont loin. L'œuvre de Dieu nous concerne, l'œuvre de la croix nous concerne. Nous voyons également qu'à l'époque, il y avait, dans les arènes, il y avait des gens qui s'entretuaient, et ceux qui étaient comme spectateurs, ils applaudissaient. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Le cœur de l'homme qui se plaît à voir des meurtres là, dans les arènes, ils se tuaient entre eux, des esclaves, et les gens applaudissaient. Mais un petit peu plus loin, nous nous apercevons que des chrétiens, nos frères et sœurs, ont payé de leur vie dans les arènes pour ne pas avoir renié leur foi. Et les gens, ils applaudissaient des chrétiens qui se faisaient dévorer par des bêtes féroces ou qui se faisaient brûler sur les bûchers. Nous avons ce martyr de Blandine dans la région de Lyon. Et les gens applaudissaient. C'est terrible, on se dit, mais le cœur de l'homme, la croix représente bien l'horreur du péché, du cœur de l'homme. Dans nos sociétés modernes, la croix nous révèle l'horreur du péché. C'est quoi qui est affiché à la croix? Nous pouvons tout mettre, tout ce que nous trouvons de négatif, c'est à la croix. L'hypocrisie, le mensonge, la haine, l'amertume, la violence, le non-pardon, tout ça c'est affiché à la croix. Et quand nous regardons la croix, on dit mais c'est mon cœur qui est là. Vous dites mais moi je suis chrétien, j'ai été pardonné par le Seigneur il y a 30 ans, 40 ans. Mais notre cœur, il a besoin de la grâce de Dieu. Encore aujourd'hui, oui. Il a besoin de la grâce de Dieu. Mais la croix nous démontre aussi tout l'amour de Dieu. C'est un paradoxe, mais à la croix se conjugue la violence de l'homme, la haine de l'homme et l'amour de Dieu. C'est à la croix aussi, quand nous regardons, eh bien nous nous apercevons de tout l'amour que le Seigneur a pour nous. Le prix qu'il a payé par amour pour nous. Et cela devrait nous faire fondre et dire « mais je ne peux plus pécher devant un tel amour. Si l'horreur du péché me touche pas encore beaucoup, mais l'amour de Dieu doit nous toucher. » Se dit « mais c'est quel prix le Seigneur a payé. » Dans Romains au chapitre 5, verset 8, il est dit « mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous, je blasphémais, alors que j'étais dans la violence, alors que j'étais dans l'alcool, dans la haine, alors qu'il y avait ces choses dans ma vie, Christ était déjà mort pour moi. Il avait déjà prouvé son amour pour moi. Mais quand on voit la croix, on s'approche, on est touché, mais tout ça passe sur notre cœur. On se dit, mais oui, mais je suis cet homme-là. Ouais, merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la grâce. Alors qu'on ne faisait aucun cas de Jésus, il nous aimait déjà. Il l'a prouvé. Il est mort à cause de nous. Il est mort pour nous. Il regardait. Voilà, il regardait ces gens. L'œuvre de la croix ne les concernait pas trop. Ils étaient loin. Ils regardaient le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. Mais d'autres allaient plus loin. Il nous est dit que les magistrats se moquaient, les soldats se moquaient, et les malfaiteurs l'injuriaient. Comment on peut injurier Jésus? Comment on peut se moquer de lui? Mais logiquement, même sans parler de spiritualité, un homme qui n'a fait que du bien, un homme qui a nourri les foules, qui a purifié les lépreux, un homme qui est allé vers les veuves, les orphes, mais comment peut-on se moquer de lui? Vous voyez, la croix, c'est quand même, il y a une violence à la croix. c'est le message qui percute, c'est un message puissant. Et je comprends l'apôtre Paul qui ne voulait savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je comprends maintenant, quand on voit les implications, quand on rentre un petit peu plus en détail dans ce qui s'est passé, quand on voit aujourd'hui encore, eh bien, on se dit, mais c'est tellement... En même temps, c'est violent, c'est puissant. Il se passe bien des choses à la croix du calvaire. Comment le cœur de l'homme peut être aussi dur? D'ailleurs, la foule, et c'est certainement cette même foule qui réclame à un moment donné la mort de Jésus et qu'on libère Barabbas, le meurtrier. Vous voyez, on peut se placer et dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, avec la foule, là? Alors, les religieux entraînés disaient, crucifie, crucifie. Et la foule qui a été bénie par Jésus, crucifie, crucifie. Ne vous laissez jamais influencer par qui que ce soit le Seigneur qui vous convainc. Jamais influencer. Ah oui, mais ça, tu devrais faire. Que ce soit le Seigneur qui dirige nos vies. Et pas l'influence des gens. Et les gens sont mis à crier, crucifie, crucifie. Ils ont choisi le mal, la rébellion, la violence et le meurtre plutôt que l'amour. Chaque fois le choix est placé devant nous. En tant que chrétiens, que choisissons-nous? Eh oui, ah ouais, mais moi j'aurais pas dit crucifie. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait, moi. Mais je sais que mon cœur naturel, il est très mauvais. Je ne sais pas, mais là, eux, en tous les cas, crucifient. Et après, ils vont le regarder de loin, agoniser sur la croix. Alors, Golgotha, c'est un lieu où Christ a payé pour notre dette. Mais Golgotha, c'est aussi un lieu de puissance, je le disais tout à l'heure, c'est un lieu de puissance, il y a eu une puissance extraordinaire, et on va le voir, je crois que j'ai dû déjà en parler de cela, mais c'est un lieu de puissance extraordinaire. La croix a ébranlé toutes les sphères. Vous imaginez un homme qui se laisse comme un agneau crucifié. On est là, on aurait pu dire, mais c'est la défaite, regardez, c'est pas possible de sauver les autres, qu'il est pas capable de se sauver lui-même. Pour les hommes, c'était une défaite. Mais quelle grande victoire, la croix. Quelle grande victoire, la croix. Jésus a ébranlé toutes les sphères. Mais je prie pour que Dieu, la croix, ébranle encore notre cœur ce matin. Qu'elle ébranle encore notre cœur. C'est pas de l'indifférence. On n'est pas là, regardant de loin l'œuvre de Dieu. Ouais, c'est... Mais c'est pas ça, on est impliqué au premier plan, la croix doit nous transpercer encore le cœur aujourd'hui, mais demain et dans un mois, la croix doit encore nous toucher, que le Saint-Esprit, eh bien, ramollisse nos cœurs. Et la croix nous gardera toujours dans de bonnes dispositions dans la vie chrétienne. Dans de bonnes dispositions. Ah ben, je suis prêt presque à mentir. Mais c'est pas possible. Waouh, la croix, Jésus. Tu l'as affiché, le mensonge. J'en veux un frère, une sœur, je suis... Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous voyez, ça nous gardera. Sinon, c'est une religion, on le dit souvent, mais si, sans la croix, il n'y a pas le Saint-Esprit. Hein. La croix, c'est ce qui précède. Croix, la résurrection, l'ascension de Jésus et le Saint-Esprit qui est répandu. Mais si l'œuvre de la croix ne se fait pas dans notre cœur, même si nous avons été baptisés, mais si elle ne se fait pas, il n'y aura pas la régénération, il n'y aura pas les sentiments de Christ, il n'y aura pas ces choses qui sont glorieuses et normales en même temps. Un chrétien, il doit être régénéré, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est prévu par Dieu. Un chrétien, ah oui, mais moi, j'attends d'atteindre ce summum. Non, pas du tout. Rempli du Saint-Esprit, c'est pour maintenant, hein. C'est pas quand on aura fait des progrès, Non. C'est justement, on a besoin du Saint-Esprit pour faire des progrès. Golgotha. C'est un malfaiteur s'est converti. Vous voyez, ça, c'est la première œuvre de puissance. Un malfaiteur se convertit. Mais comment c'est possible, quoi? Jésus est en train d'agoniser, son sang est là, répandu, et à droite et à gauche, il y a deux malfaiteurs, et la première puissance, eh bien, Jésus touche le cœur d'un malfaiteur. Il en faut quand même pour toucher le cœur d'un homme, non? Il en faut. Et la puissance de la croix, et cet homme a réalisé, ce malfaiteur, tout à coup, il dit, mais pour nous, c'est justice, on a commis des actes qui nous ont amenés ici. Mais lui n'a rien fait, rien, rien. Et cet homme va commencer à ouvrir son cœur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, c'est beau, hein, le premier pécheur sauvé, c'est un brigand dans le ciel. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a côtoyé les gens de mauvaise vie, mais dans le ciel, le premier qui rentre, c'est un brigand. Mais quelle puissance pour changer le cœur d'un homme! Quelle puissance! J'avais dit déjà une fois, mais ça c'est en psychologie, mais bon, pour changer une habitude ancrée, il faut 20 ans. Mais Jésus, à une fraction de seconde, il a changé le cœur de cet homme. Ce n'est pas une habitude qu'il a changé, le cœur, complètement. C'est beau, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'évangile, change notre cœur, nous naissons de nouveau. Il purifie notre cœur, nous devenons le temple du Saint-Esprit, il n'y a plus de choses mauvaises, il n'y a plus d'ordures dans notre cœur. Parce que l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, ce sont des œuvres puissantes dans notre cœur. Le sang de Jésus a un pouvoir illimité. Il a toujours la même efficacité. 1 Jean 1,7 et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Mais qui peut effacer des péchés ? Waouh, si ce n'est Dieu seul, si ce n'est Jésus, mais qui peut effacer nos péchés? Le sang de Jésus efface nos péchés. Ça veut dire qu'il les efface et il les efface dans notre cœur. Vous savez, quand on a commis des délits, on est quand même inscrit par la police, et ça ne s'efface pas. C'est inscrit. Mais quand Jésus lave notre cœur, il efface tout. Il dit qu'il prend nos péchés, les jette au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Comment pourrait-on retenir quelque chose contre un frère, une sœur, si Jésus, lui, nous a oublié nos péchés? Il les a jetés au fond de la mer. Le sacrifice de Jésus à la puissance de transformer un cœur, une vie, une destinée, une famille, même une nation. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Moi, je ne me résignerai jamais à une religion. Jamais, jamais, même pentecôtiste, jamais. Christ n'est pas mort pour ça. Et le ministère n'est pas donné pour ça. Pour que ce soit toujours la même chose, toujours, 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 au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, et dites-le non, Seigneur, non, on ne veut pas de ça. On veut que l'œuvre de la croix s'accomplisse, que la croix soit plantée dans notre cœur et qu'elle touche pas seulement les émotions, mais qu'elle vienne toucher notre volonté. C'est pas possible, Christ n'est pas mort pour qu'on ne change pas, à peu près, ou... Non, il est mort pour nous donner un cœur nouveau. Une vie nouvelle, Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je veux repréciser encore ici, parfois on pense que faire des progrès ou grandir dans la sanctification, c'est quand le péché diminue en nous. Mais ça, c'est une grosse erreur. C'est une faute doctrinale. C'est pas celui qui ment 10 fois qui mentira 5 fois. Il y a l'œuvre de sanctification. C'est pas vrai. Christ nous libère du péché. Et c'est quoi la sanctification? Sanctification, c'est quand nous grandissons dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, dans la joie. Ça, c'est la sanctification. Nous grandissons dans la vie nouvelle. Et l'erreur est de dire et de se apaiser la conscience en disant « Mais avant, je disais des gros mots, beaucoup, maintenant j'en dis moins. » Mais la croix n'a pas été plantée, là. Avant, j'étais violent, maintenant juste un petit peu moins, mais bon, j'attends, le Seigneur est en train de travailler mon cœur. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Dans la Bible, il est dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Si nous ne saisissons pas ça, nous ne nous en sortirons jamais avec notre péché. Même au bout de 40 ans, il sera toujours là. Mais si nous saisissons qu'à la croix, Jésus nous a libérés du péché, à ce moment-là, la grâce de Dieu va couler. Le Saint-Esprit va agir. Non, je ne mens pas 5 fois au lieu de 10 par jour, mais je ne mens plus. Vous voyez, le niveau a tellement baissé. Waouh, maintenant, il a fait des progrès. Non, ce n'est pas des progrès, ça. Parce que dans le monde, vous savez qu'il y a des gens qui changent. Sans parler de l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui changent. Moi, j'en ai connu, mon chef d'équipe, il m'avait raconté son témoignage, entre guillemets. C'était vraiment un loupard, il dormait dehors, un zonard et tout. Et un jour, il a rencontré celle qui allait devenir son épouse, bon chic, bon genre, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, sur deux univers différents. Et lui m'a dit, elle m'a changé. Complètement, il a dit, j'ai changé de A à Z. Vous voyez que dans le monde, il y a des gens qui changent. Et au milieu de l'Église, il faut qu'il y ait ce miracle de la nouvelle naissance, de la régénération, de la sanctification, de la libération. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre puissante. On le chante, on le proclame, mais il faut qu'on vive ces choses-là. Il faut qu'on le vive. La croix, c'est la réponse proportionnée de Dieu face à la gravité du péché. Vous voyez, la croix, ça veut dire Dieu a payé le prix fort pour que le péché soit expié. Il a payé le prix fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, c'est extrêmement grave. Oui, parce que la réponse de Dieu, le prix payé, c'est ça, il a donné son fils. Ça veut dire que c'était tellement grave. Le péché, vous savez pourquoi c'est tellement grave? Parce que ça nous sépare de Dieu. C'est tellement grave. C'est la réponse de Dieu. Ne minimisons jamais le péché. En fait, en tant que chrétien, si notre péché ou le péché des autres est banalisé, à ce moment-là, nous nous moquons de Jésus sur la croix, comme ces gens-là. Oh non, quand même, frère, vous... Oui, parce que l'œuvre de Jésus sur la croix, il est mort pourquoi? Pour nous libérer du péché, pour expier nos péchés. Et si nous nous banalisons le péché, ça veut dire nous nous moquons de l'œuvre de la croix. Un jour, un homme de Dieu avait intitulé son sermon, bon, Wilkerson pour ceux qui le connaissent, le titre de son sermon, « Ils se sont débarrassés de la croix », en parlant de l'Église. Hein. « Ils se sont débarrassés de la croix ». Et un autre homme de Dieu dira, « Il y avait l'ancienne croix, la croix de Golgotha, et maintenant il y a une nouvelle croix qui est venue, une croix moderne, où elle n'exige plus rien, cette croix moderne. On peut rester comme on est sauvé, on a accepté Jésus, et on vit comme à peu près, voilà. Ça, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes qui étaient près de Dieu, et qui étaient sensibles au péché. L'œuvre de puissance aussi, c'est se centenier romain. C'est dans les versets, vous lisez ensuite dans les versets qui suivent, un centenier romain qui était là, et quand il a vu ce qui était en train de se passer quand Jésus est mort, il a vu tout ce qui s'était passé, il dit « Assurément, cet homme était juste ». Et dans un autre évangile, il est dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Le cœur de cet homme qui était venu pour crucifier Jésus, eh bien, va être ébranlé à ce moment-là. Il ne pouvait pas faire autrement que de dire, mais avec toute cette manifestation qu'il y a sur le mont Golgotha, cet homme était vraiment le fils de Dieu. de Dieu où cet homme était juste. Si nous pouvons réaliser la puissance de la croix et les bénéfices qui en découlent, eh bien, nous comprendrons mieux le thème du message de Paul, je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'a rien mis en avant, mais juste, et c'était suffisant, le message de la croix. Je passe rapidement, tout l'univers a été ébranlé. Vous vous rendez compte, la puissance de la croix, elle a ébranlé tout l'univers, tout. Dans les lieux célestes, il y a eu un ébranlement terrible. Il nous est dit, alors je crois que, oui, c'est dans Colossiens au chapitre 2, et versets 14 et 15, il est dit, il a détruit l'acte qui nous condamnait, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est là le spectacle. Jésus, en mourant sur la croix, a dépouillé la puissance de celui qui tient des millions et des centaines de millions de gens courbés, dans la misère, dans l'adultère, dans la boisson. Ce qui tient les gens courbés, Jésus a dépouillé ses puissances. Et on peut lui dire, Seigneur, moi je suis en toi et elle ne me touche pas. Parce qu'en lui, nous avons la victoire. Il a dépouillé ses puissances. Ne permettons jamais, ne disons jamais c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, notre couple est comme ça. Ne le disons jamais. Disons, Seigneur, tu as remporté la victoire et cette victoire, c'est ce que tu me communiques. Il est dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Enfants de Dieu, c'est pas misérable. Nous sommes enfants de Dieu, c'est extraordinaire. Le ciel s'est obscurci. Il ne pouvait plus donner la lumière. Quand Jésus est mort, le ciel ne pouvait plus donner la lumière. Vous voyez, les lieux célestes, la puissance de la croix les a ébranlés et a remporté une victoire, la plus grande de toutes les victoires, sur le diable, le démon, les autorités, etc. Jésus a remporté la victoire. Mais le ciel physique ne pouvait même plus donner la lumière quand Jésus est mort. Waouh ! J'imagine que ceux qui étaient là, quand même, ils regardaient comme un spectacle, mais enfin, quand même, ils ont dû... Les rochers se sont fendus. Il en faut une puissance pour fendre des rochers. Les rochers, la terre... C'est fendu, il y a eu un ébranlement quand Jésus est mort. Vous voyez, ce n'est pas la mort de Jésus, cet homme, il est mort, voilà, c'est historique. Mais c'est la terre a été ébranlée, les rochers se sont fendus. Waouh ! Dans le domaine spirituel, il y a eu un ébranlement terrible. Dans le domaine spirituel, il nous est dit que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Mais ça, on devrait bondir de joie. Il n'y a plus de séparation. Le voile, c'est ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et d'être secourus dans nos besoins. Il n'y a plus de séparation. Jésus a ébranlé tout le monde religieux. Et moi, je bénis Dieu pour que Jésus a ébranlé le monde religieux. La religion n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est venu pour donner sa vie, pour que nous ayons une relation avec le Père. La religion, c'est la mort. Et Jésus est venu ébranler, il est venu déchirer ce voile qui séparait. Même dans le domaine de la mort physique. Alors ça, c'est les tombeaux se sont ouverts. Et le corps des saints ressuscité, il promenait dans Jérusalem. Et si la croix, c'est pas, on va verser une larme sur la croix. Gardez vos larmes, c'est pas de les verser sur Jésus, mais de les verser sur nous. Il faut pas verser des oh le pauvre Jésus. On m'a dit une fois, le pauvre Jésus. Non, pas le pauvre Jésus. Nous pauvres de nous. Le corps des saints. C'est dans l'Ancien Testament où on a jeté le corps d'Élisée dans un tombeau sur des eaux et ces eaux ont repris vie. Et là, nous voyons que face à la puissance de la croix eh bien, les saints sont ressuscités. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est promené dans les rues de Jérusalem à ce moment-là, il voit des morts marcher dans les rues. Je ne sais pas quelle serait notre réaction. Hein. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Jésus. À la croix se côtoie, comme nous l'avons dit, la gravité du péché, l'amour de Dieu. Il y a un combat terrible et Jésus remporte ce combat. Vous voyez, jusqu'à la dernière minute, descend de la croix. Mais Jésus était venu pour ça. Descend de la croix, si tu es fils de Dieu. Jésus était venu pour ça. Vous voyez que jamais on ne minimise ni la croix, ni le péché, ni l'amour de Dieu qui a été manifesté par notre vie. Et c'est par nos vies que nous manifestons, si ça nous concerne, si nous sommes touchés, si ça a une implication dans nos vies. Sinon, je parle direct, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Sinon, ça ne sert à rien. Ouais, mais je vais au culte, je vais à la prière, je fais... Ça ne sert à rien. Si la croix ne nous touche pas jusqu'à changer notre vie, nos habitudes, si à nous faire pleurer, oui, sur nous-mêmes, sur notre péché, sur notre... et demander la grâce de Dieu, le secours de Dieu, et Dieu le fait. Il nous secourt et il nous délivre. Ne gardons jamais même une habitude en disant, bon, ben moi je suis comme ça, je ne changerai pas. Non, la croix n'a pas été donnée pour qu'on ne change pas. La croix, elle a été donnée pour qu'on change complètement. C'est pas de l'utopie. Mais la croix, c'est la réponse de Dieu. Ah, que c'est pas de la porter autour du cou. Bon, j'ai rien contre, mais c'est pas ça. Même s'il y en avait une sur le mur, à la croisée des chemins, on s'habitue à la croix. Mais la croix, on ne doit jamais s'y habituer. La croix, c'est toujours un lieu terrible et en même temps un lieu de grâce. C'est terrible, c'est un lieu de grâce. Mais c'est la croix, je vais terminer. S'il n'y a plus la croix, il n'y a plus de repentance, il n'y a même plus de sanctification, il y a seulement quelques émotions. Mais la croix touche notre cœur, notre volonté et aussi nos émotions. Alors quelle sera ma réponse face à la croix ? Si je ne suis pas encore chrétien ce matin, elle a la puissance de me convaincre par le Saint-Esprit. Voilà, dire, ben, si Jésus est mort, c'est pas pour rien, quoi. C'est quelque chose, c'est une nécessité absolue que je puisse laisser l'œuvre de la croix se faire dans mon cœur pour m'amener à la repentance et m'amener au salut et m'amener à la nouvelle naissance. Si quelqu'un ce matin ne connaissait pas le Seigneur, ne laissez-vous toucher par l'œuvre de Jésus. Et pour nous qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, eh bien, quelle est toujours cette puissance ? Quelle est toujours cette puissance ? Elle est capable de faire ce qu'aucun homme ne pourra faire. On peut mettre tous les efforts, on n'y arrivera pas. Mais l'œuvre de la croix, c'est une œuvre puissante. Elle a fait taire les ténèbres, elle a fait taire les dominations, les autorités, elle a fait taire la religion, elle a fait taire la mort. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. On pourrait parler longtemps, mais je vais accélérer. Si je suis chrétien, eh bien qu'il y ait... Elle a la puissance de me purifier, afin que l'onction de Dieu soit sur ma vie et que les miracles qui accompagnent la prédication soient là, que les miracles qui accompagnent la prière au nom de Jésus soient là, que quand nous nous rassemblons, eh bien, que ce soit comme les premiers chrétiens, dans Acte 4, il nous est dit que, eh bien, ils se sont rassemblés, il y a eu une menace qui pesait sur eux, mais vous savez, ils n'étaient pas inquiets des menaces. Et nous ne sommes pas inquiets des menaces. Nous, nous devons craindre Dieu. Et il nous est dit que, s'étant rassemblés, ils ont prié. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'un message qui nous console un petit peu, qui nous fait, voilà, qui nous exhorte un petit peu, on a besoin d'un message puissant, parce que le message que Dieu a donné, c'est un message puissant. Et dans chacune de nos réunions, ce message est capable d'ébranler le cœur d'un pécheur, il est capable d'ébranler le cœur d'un croyant, quelqu'un même depuis des dizaines d'années qui marche. Le message de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Paul, comme nous l'avons lu, dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour le monde. Ils ne comprennent pas, ils le banalisent, ils se moquent. Mais pour le croyant, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu, la croix. Et je termine là, vraiment. L'apôtre Paul, quand il dit « Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », vous savez, c'est une chose de prêcher. Ça n'est une autre, de vouloir vivre ce qu'on prêche. Je vous le dis, c'est un défi, il faut prier pour que l'on puisse vivre ce que l'on prêche. Et pour vous, vivre ce qu'on confesse. L'apôtre Paul ne le disait pas seulement. Mais la croix a été plantée dans sa vie, dans son cœur, dans son esprit. La croix a fait une œuvre dans la vie de l'apôtre Paul. Il dira « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde ». Ça veut dire quoi? Mais il n'avait aucune ambition. C'était pas. On regardait l'apôtre Paul dire « Mais cet homme, il est mort. Il ne vit pas. Il ne vit pas cet homme. Pour... C'est même pas la peine. Il ne cherchait pas la gloire. Il dit « Cet homme, il est mort. Comme on m'a dit dans le lieu de travail, mais tu ne vis pas, toi ». Le week-end, tu vas t'enfermer dans une église, tu vis pas. Et je leur ai dit, ce que vous faites, je le faisais 10 fois plus que vous. Et maintenant, je connais autre chose, je connais Jésus. Je dis, mais il y a pas l'ombre d'un doute que je préfère aller m'enfermer, comme vous dites, et regarder le résultat du lundi matin, comment nous sommes, vous et moi. Eux, ils étaient dans un état le lundi matin, ils reprenaient vie le vendredi matin. L'œuvre de Jésus. Et Paul dira, dans les derniers versets de Galates 6, il dira, je porte sur mon corps les stigmates ou les marques de Jésus. La croix, elle est implantée. C'est pas la croix, on chante, on prêche la croix, mais la croix est plantée dans sa vie. Je porte, ça veut dire que c'est visible. Les marques, alors qu'il n'a pas été crucifié, mais il porte sur son corps les marques de Jésus. C'est ça l'Évangile. C'est pas moins que ça. C'est ça. Si nous voulons autre chose, c'est autre chose. Mais l'Évangile, c'est ça. Un message puissant, percutant, capable d'ébranler. S'il a été capable d'ébranler les puissances de ténèbres, les cieux, la religion, même la mort, les morts sont sortis, si les rochers se sont fendus, si la croix a été capable de faire ça, elle ne peut pas toucher notre cœur. Dire, mais attends, mais je dis quoi là? Je suis comme ça, je change. C'est quoi ça? Mais qu'elle ébranle aussi, comme elle a ébranlé le cœur du centurion romain, qu'elle a ébranlé le cœur du brigand, qu'elle ébranle encore notre cœur. Il n'y a pas d'autre voie, c'est la croix. La réponse de Dieu, c'est la croix. Puissions-nous l'accepter dans notre cœur et dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi, que la croix soit plantée. Pas juste comme ça, mais plantée. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur. Merci pour l'œuvre de la croix. Je comprends un peu, Seigneur, un peu, mais ça a tellement une profondeur immense. Tellement une profondeur immense, Seigneur. Merci, merci pour la croix. Seigneur, qu'elle fasse son œuvre en moi. Tu dis que nous devons renoncer à nous-mêmes, nous charger chaque jour de notre croix et te suivre. Seigneur, permets que nos vies changent, qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, qu'il y ait encore à nouveau des miracles, des guérisons, des délivrances, qu'il y ait à nouveau des convictions de péché, des repentances réelles, des changements de vie, des réconciliations, des pardons au milieu de nous. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, fais cette œuvre en nous, fais cette grâce au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux laisser juste une minute ou deux. Si quelqu'un a besoin du secours de Dieu, on va simplement invoquer le nom de Jésus pour votre vie, pour votre corps, pour votre maison, pour peu importe. Levez-vous à votre place, on va prier, saisir l'occasion, dire « Seigneur, viens, viens Seigneur, viens, que ton œuvre se fasse en moi. » Peu importe, il nous est dit qu'à la croix, Jésus a pris nos maladies dans ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Ah, si quelqu'un a besoin de la grâce et du secours de Dieu, levez-vous à votre place. Oui, le Seigneur vous voit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur vous voit. On veut prendre juste un petit peu de temps pour prier, parce que votre victoire, c'est aussi la nôtre. On est avec vous, on est... Ah Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui se lèvent dans ta présence. Seigneur, je te prie et je veux m'unir à eux. Leur problème, c'est aussi le mien, Seigneur, et leur victoire, c'est aussi la mienne, c'est la victoire de Jésus à la croix. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin, et que ton œuvre se fasse pleinement, Seigneur, pleinement. Pleinement, dans le nom de Jésus, on ne veut pas banaliser ton œuvre, Seigneur, on ne veut pas banaliser la vie chrétienne, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. C'est une puissance extraordinaire, Seigneur, qu'il y ait à nouveau des miracles au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, et comme Paul, nous voulons savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah, Seigneur, bénis mes frères et sœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il y a...